Il est 11h et on retrouve François Malabeuf pour l'émission des correspondances.
Oui, bonjour Emeline, bonjour à tous. Vous le savez, pendant les correspondances, Fréquence Mistral vous offre une heure exceptionnelle de rencontres et évidemment d'émotions. Et surtout dans cette première émission, j'ai le plaisir d'accueillir parmi mes invités, le premier invité, comme d'habitude, c'est notre ami Olivier Chaudançon, directeur des correspondances. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Je disais beaucoup d'émotions, bien sûr, parce que cette année, elle est marquée par une absence, celle de notre ami Jean-François Michel, qui était président des correspondances. On va lui rendre un hommage tout à l'heure. On va dire, Olivier, quand même, pour commencer, que les correspondances, l'inauguration officielle, c'est tout à l'heure, à 17h.
Absolument, 17h, et puis première rencontre littéraire à 18h.
Avec Eric Puchner.
Eric Puchner, un auteur américain, il a écrit un recueil de nouvelles, et là, il vient présenter son premier roman, Famille modèle. Puissant, comme bien souvent dans la littérature américaine.
Et puis le soir, un grand spectacle autour des lettres autour de Moravia.
Autour de Moravia, Anouk Aimé, qui vient lire des nouvelles d'Alberto Moravia. Elle sera accompagnée par un pianiste qui jouera la musique que l'on entend dans les films de Fellini, celle de Nino Rota. Donc on sera dans une ambiance très italienne. Et puis des nouvelles qui évoquent bien souvent d'ailleurs des actrices. Voilà. Je crois que c'est un beau moment, parce qu'en plus tout le monde se connaissait, Anouk Aimé connaissait bien Moravia, Fellini, Nino Rota, donc voilà, c'est une bande qui se reforme artistiquement.
Donc c'est les trois coups avec Nino Rota en plus, c'est un beau luxe. Donc les correspondances jusqu'au 25 septembre, c'est à Manosque bien sûr. Et puis dans cette émission, nous parlerons aussi beaucoup de Jules Mougin qui était le facteur étoilé. Il y a une exposition qui lui rend hommage à Carzou et il y a plusieurs personnes qui sont invitées à en parler. Ce sera la deuxième partie de cette émission. Première partie évidemment, c'est l'hommage à Jean-François Michel. C'était l'année dernière, c'était sur notre antenne, ici même, un très beau plateau l'an dernier, le 26 septembre très exactement. Jean-François Michel était présent aux côtés de Dominique Blanchecotte, elle est présidente de la Fondation La Poste, aux côtés également du comédien Jacques Bonafé, après la lecture superbe de Sur la route de Jack Kerouac, discussion sur le fond pour les correspondances, mais aussi les rapports avec les partenaires financiers, publics et privés, et sur le spectacle de Bonafé. On retrouve l'esprit fin, le ton courtois et la profondeur du propos de Jean-François, un grand moment et un merveilleux souvenir. Jean-François Michel, vous êtes le président des correspondances. Bonjour, ravi de vous recevoir. Vous êtes sur la brèche ces jours-ci, évidemment. Ça se passe bien, les correspondances 2010 ?
Oui, la deuxième édition, ça démarre très fort. C'est-à-dire qu'on a quand même la rentrée est très bonne. Et puis les deux premiers spectacles, alors je vais pas dire ça puisque Jacques est là, mais quand même, Brigitte Fontaine mercredi et Jacques Bonafé hier soir, c'était quand même magnifique.
C'était un bonheur. Hein,
magnifique.
On va en parler avec lui tout à l'heure.
Et puis moi j'étais étonné, étonné ou surpris en bien, c'est qu'il y avait beaucoup de, peut-être c'était mercredi, peut-être c'était la grève hier, beaucoup de jeunes, beaucoup de classes qui sont venues, de l'hôtel volant, sur la place, sur la place Herbert. Et ça c'est très très, pour nous c'est très important que le festival ce soit pas juste un moment dans la vie de Manosque un peu idéal. Et puis que tout au long de l'année, rien ne se passe. Ça, c'est toujours le danger des festivals. Et c'est très important que, en plus, on puisse faire découvrir la littérature ou faire aimer les mots ou le livre à travers le festival, auprès d'un public, qui est sûrement très heureux de découvrir le livre, mais qui n'a pas toujours des occasions comme ça de rencontrer et des auteurs et des artistes et des performances comme ça.
Et pour s'être croisé régulièrement hier, Jean-François, on se souvient avec bonheur de l'intervention de Kim Thuy avec ces jeunes lycéens de Manosque,
ça.
Des lycéens qui étaient le soir au spectacle de Jacques Bonafé et qui ont écouté avec presque une religiosité particulière le texte de Jacques Kerouac. C'était assez exceptionnel parce que c'est pas
que
tout à fait
parlait,
leur univers.
Ouais.
Donc on verra ça tout à l'heure.
Oui, mais ça leur parlait.
Exactement,
ça
exactement.
Leur parlait.
Et ils sont restés assis calmement pendant presque une heure. C'était très intense et en même temps magnifique. À vos côtés, Jean-François, Dominique Blanchecotte. Bonjour Dominique.
Bonjour.
Ravi de vous recevoir. Vous êtes la présidente de la Fondation La Poste. C'est un partenaire essentiel, La Poste, pour les correspondances. D'ailleurs, on dit les correspondances La Poste, on l'oublie très souvent. Pourquoi la présence de La Poste aux côtés des correspondances depuis le début de cette aventure ?
Ben écoutez, c'est normal qu'on soit là, d'abord parce que ici ça s'appelle Les Correspondances, Manosque La Poste on dit en général, et que notre fondation justement valorise l'écriture des correspondances. Donc il était tout naturel qu'on soit aux côtés de Manosque pour cette opération.
Vous venez depuis plusieurs années sur Manosque. Vous avez senti un changement de régime de cette manifestation ?
Ben, on le voit dans les rues, on le voit aussi à travers ce que nous disent nos postiers, parce que y a beaucoup plus de monde. On nous dit à chaque fois quand on arrive sur Manosque que tous les spectacles sont complets. Hier soir, pour le spectacle des lettres de Jacques Kerouac par Jacques Bonafé, c'était complet. Et je crois que c'est pareil pendant les 3 jours qui viennent, même... Voilà, donc on le sent dans les rues, on sent peut-être une espèce de... C'est pas frénétique, mais on sent une présence beaucoup plus importante.
Vous avez souligné la présence de vos collègues également de La Poste de Manosque. Je ne sais pas si Olivier Haribaud aura le temps de venir nous rejoindre. Il est sur la brèche lui aussi pendant tous ces jours. Quel regard vous portez sur leur travail de terrain, un travail de fourmi? Ils travaillent beaucoup avec les associations philatélistes aussi.
Oui, ils travaillent avec le milieu associatif, mais je crois qu'ils sont extrêmement engagés sur l'opération de correspondance à Manosque, parce que d'abord c'est une façon de faire découvrir leur métier, et puis je veux dire d'être aux côtés de la fondation et montrer que ben, je veux dire le groupe La Poste qui a plusieurs métiers, il y a les facteurs, il y a les bureaux de poste, ben, tout ça se travaille en équipe et justement incite tous nos amis à écrire, parce que je pense que l'émotion elle passe aussi par la lettre et l'écriture.
C'est aussi un partenaire financier important, la Fondation La Poste, pour les correspondances. Qu'est-ce que ça représente très exactement, Jean-François, pour vous, cet apport ?
On ne va pas parler de chiffres et de pourcentages dans une émission littéraire, mais c'est un apport important.
C'est pas notre genre, mais quand même.
J'ai pas le budget en tête, mais en tout cas, sans La Poste, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'on ne le ferait pas. Voilà. Et donc, on est très attentif, et c'est aussi pourquoi, en dehors du festival, pendant l'hiver, etc., on se reparle sur la programmation, sur ce qui peut les innovations. Enfin, c'est pas juste un partenaire financier, La Poste.
Oui, non,
enfin, la fondation, c'est un partenaire avec qui on peut travailler, discuter, et c'est important de pas rester tout seul. Autant la même chose ici, il faut qu'on ait le travail avec les associations, il faut qu'on ait le tissu, mais aussi avec les gens qui nous financent. Alors La Poste, ça représente un peu la partie, même si c'est privée, enfin, en tout cas, oui, d'une certaine façon. Et autant on discute aussi avec les financeurs publics pendant l'hiver. Hein, mais La Poste, pour nous, c'est l'élément important de la faisabilité du festival.
On imagine très bien et on sait très bien que sans les financeurs publics que vous évoquiez, région, département, la DRAC ou bien la communauté de communes, bien sûr, de Manosque, et les partenaires comme La Poste, Géocell, Sofia, qu'est-ce qu'il y a encore ? Il y a Toyota qui vous aide, etc.
Il y a un nouveau partenaire, la Sofia, qui est très important cette année et qui nous emmène, qui nous permet aussi, on en parlera peut-être pas aujourd'hui, mais demain, c'est sur les innovations un peu dans le domaine de l'écriture numérique. La Sofia, c'est une société qui, c'est un peu comme la SACEM des écrivains et des éditeurs, d'une certaine façon. Donc, elle affecte pas mal d'argent à des actions culturelles. Et on l'avait jamais contactée. Et on l'a fait cette année, et c'est vrai qu'il nous apporte un budget pour notamment les book flyers, qui sont un peu une tentative, on va en parler demain matin, c'est pas si facile. Une tentative en une minute de donner envie de lire un livre à travers l'image, un son, etc. Ce ne soit pas juste une pub pour un livre, parce que ça va souvent être ça, mais qu'on essaye, parce que nous c'est pas notre objet, ici on essaye de trouver, d'aller un peu plus loin. Donc ça c'est très intéressant d'en parler avec la Sofia, avec Orange aussi, qu'il faut citer, qui est depuis l'année dernière nouveau partenaire, mais je pense que c'est indispensable, et ce qui fait indirectement, enfin puisque vous parlez un peu d'argent, c'est vrai que les financeurs publics sont encouragés, et c'est vrai que la communauté de communes elle augmente tous les ans, et que la région est toujours là, le conseil général est toujours là, donc c'est toujours important.
Il ne faut pas oublier la réciprocité, c'est beau aussi les correspondances, ça marche en aller et retour, ils ont bien de la chance de vous avoir.
aussi financeur public d'avoir un phénomène comme les correspondances comme ça.
Ça, c'est notre ami Jacques Bonafé.
Ils ont bien la chance d'avoir un événement comme ça. Ils ont bien nécessité d'avoir de tels événements, d'abord humains, je crois. D'abord humains, que tout d'un coup, quelque chose qu'on décrète comme le livre ou la littérature prend forme passagère de transmission comme ça, de vie, de relations, etc. Ils n'ont pas de raison d'être, eux. Si vous, phénomène, les correspondances n'existaient pas.
On est conscient de tout cela, bien évidemment, Jacques. On a une chance extraordinaire ici à Manosque. C'est pas uniquement Jean Giono, c'est aussi les correspondances.
Ah oui.
Et ça, c'est magnifique.
Oui.
C'est magnifique de pouvoir se croiser.
Christophe Castaner a dit ce que dit Jacques là, à l'immigration. Il a signalé ça en disant c'est qu'on a besoin aussi de ceux, des gens qui travaillent. Voilà.
Et on peut créer donc avec des réflexions sur le book flyers, comme vous disiez. Ouais. L'année dernière, c'était le livre numérique aussi qu'on avait. Évoqué, peut créer évidemment des événements artistiques et culturels comme votre lecture d'hier soir par exemple, et commander comme ça des spectacles particuliers comme celui d'Agnès Jaoui ce soir par exemple. Là aussi il y a un rôle culturel de tout premier plan pour les Manosquins. C'est une opportunité pour nous extraordinaire. C'est pour ça que notre radio est également partenaire de cette opération et qu'on fait tout pour que les Manosquins soient intéressés par cette dynamique et ne considèrent plus cette manifestation comme une manifestation uniquement parisienne. Pas du tout ça. Ceux qui croient encore ça ont tout loupé, ont tout raté. Et donc, il faut absolument aller aux correspondances, aller sur les écritoires, participer aux rencontres, écouter les écrivains parler de leur œuvre avec Pascal Jourdana, avec Maya Michalon, avec toute l'équipe qui est formée et qui fonctionne bien depuis déjà 12 ans autour des correspondances. Et c'est un luxe extraordinaire. Vous avez raison, Jacques. C'est un luxe extraordinaire d'avoir cette dynamique chez nous.
Oui. La culture est un luxe incroyable. Enfin, on n'en mesure pas la profondeur parce qu'on ne sait pas quand elle a commencé. Ou quand on est dans un pays de patrimoine, comme on dit souvent, ça remplace la patrie, ou peut-être ça remplace les moines, j'en sais rien, patrimoine, qui revient à toutes les sauces, et c'est sympathique. Mais on ne sait pas l'antécédent de la culture. Je veux dire, on sait pas depuis combien de temps on entasse ça. Finalement, c'est pas une chose fraîche, mais c'est important de la retourner. C'est un humus énorme pour nous. C'est une chose que nous faisons, que nous ferions naturellement, qui est un besoin. Enfin, on se rend compte de plus en plus chaque jour de son indispensable utilité, ce besoin d'aller échanger, hein, pourtant, voilà, donc avec des lectures, j'échange une chose qui ne m'appartient pas, mais je la transmets à un public.
Et il y a un partage qui se fait, c'est magnifique, c'est super. Un mot, tous les deux, vous étiez au spectacle de Jacques, qu'est-ce que vous en avez pensé, Jean-François? Le spectacle d'hier sur les lectures des lettres de
Jacques Kerouac, j'ai vécu quelque chose de... Moi j'étais pris, j'étais ému, je pensais, c'est pas le mot, j'étais pris par l'émotion, et du coup ça m'a donné par contre envie de relire. Ça c'est vrai.
La vraie version donc, hein, Jacques,
sur la
vraie
route.
Version de Sur la route. Et vous, Dominique?
J'étais pareil, j'étais à côté de Jean-François, je vais pas te dire pareil, mais pareil, moi j'ai trouvé que vous étiez extrêmement, je veux dire... Vous étiez dans votre texte et ça nous donnait envie, effectivement. D'abord, oui, Jean-François dit bien, on vivait le moment plus que de penser quelque chose et on a pris un texte en pleine figure avec tout ce que ça a de bien.
Avec une interprétation remarquable, Jacques, vous étiez complètement habité par l'écriture quoi, de Kerouac.
J'étais très touché par cette découverte, ça fait un moment que... Je m'y préparais, mais la découverte de ce qu'on appelle le rouleau original, donc sur la route de Kerouac, dans ce livre mythique sur la route de Kerouac, qui a déjà eu finalement plusieurs formes d'édition, puisqu'il a été coupé, réarrangé de différentes manières. Ça fait peu de temps, ou quelques mois, quelques années, qu'on peut disposer de sa version originale. Et elle est très touchante, c'est ce qui m'a peut-être mis dans cet état. Et si ce n'est le fait aussi, pour moi, la lecture est un travail de comédien, et que si certains aiment la faire de manière égale, chez moi c'est très irrégulier, il y a des... Où je dis au bon sens, il y a des pics. J'aime bien changer les rythmes dans une lecture. Ça n'est pas quelque chose de voilà. Alors des amis me disent, c'est plus une lecture, alors tu joues. D'une certaine manière, oui, le texte écrit, qui n'est pas forcément un dialogue de théâtre, le texte écrit me saisit quelquefois comme une parole. Ou en tout cas, je reprends. par exemple des bouts de roman, des bouts de ce roman fabuleux sur la route de Kerouac, en disant ça s'adresse à quelqu'un. Tiens, on retrouve le système de la poste, des correspondances ou des notes. On dit qu'à l'origine, l'humanisme littéraire est né de cette envie très folle des auteurs grecs d'envoyer une lettre aux contemporains, à ceux d'aujourd'hui. Mmh. Et c'est vrai que le roman établit un trajet dans le temps complètement hallucinant, qui est celui d'une lettre.
Voilà. La lettre et les lettres, c'est pareil aussi.
Oui. Alors le montage, je l'ai fait effectivement en coupant, en m'amusant à mélanger des bouts de ce roman fabuleux, ce roman un peu biographique, et des lettres.
Des lettres à ses amis, Ginsberg, ouais, notamment, ou Cassidy, par exemple. Et c'était magnifique. Un mot sur votre accompagnateur tout aussi magnifique, Théo Acola,
qui
vous soutient, mais alors magnifiquement aussi, puisqu'il est... En plus, c'est un habitué des correspondances. On l'a déjà vu plusieurs fois, Théo.
Théo, c'est plus qu'un accompagnement musical. C'est une rumeur, c'est un vent, une brise, parce qu'il est lui-même originaire des États-Unis. Alors, ça tombait bien avec Kerouac. Je pouvais arrêter la répétition, on se mettait à parler doucement des routes, il me parlait de Highway 1, et puis des paysages, etc. Donc c'est une manière aussi de se charger. On a cherché très précisément ce qu'on voulait régler ou éclaircir, ce que la musique peut apporter, ou parfois elle surcharge ce qui est déjà allumé. Et puis, on a cherché à garder une part improvisée dans ce parcours aussi. Et d'autant plus improvisé que j'avais besoin de lui pour me rattraper quand je perds mes feuilles.
On s'en est un petit peu rendu compte, mais ça passait très bien, et effectivement, ces deux morceaux d'affilée étaient magnifiques aussi. Donc on en a profité.
Il a fait une belle chose, il a écrit une chanson pour Kerouac, pour l'occasion.
C'est une
pour Manosque, donc.
Très belle chose. Et on a senti la complicité qui vous liait tous les deux, tout en différence, avec un Bonafé très agité et en même temps très habité, et puis un Théo Acola plus en réserve, plus appliqué sur sa partition, et en même temps très attentif à ce que vous faisiez et à vos gestes. Oui. Donc c'était assez fantastique.
Moi, je crois que hier, la performance, c'est une performance, en fait.
Oui.
Hier, c'est typique un peu de ce qu'on peut amener à Manosque, c'est-à-dire là, il y a beaucoup d'endroits où on peut lire, donc la lecture c'est un exercice particulier qui est lu très différemment par les uns et les autres, donc chacun mais là c'était une création, donc pour moi l'univers de Kerouac était là dans la création, avec le jeu joué, la musique, mais enfin en tout cas le monde était là, et c'était, enfin le monde de Kerouac pour moi était là, et c'était très fort, et ça c'est une création, et je crois que c'est ça qu'on doit apporter.
Le lieu oblige à ça, il faut que sur la scène du théâtre Jean le Bleu, il y ait des formes différentes.
Voilà,
une si belle scène, il ne peut pas se passer chaque soir un pupitre, un lecteur sage, il faut qu'il y en ait un qui se mette un peu le désordre.
En tout cas, il était bien sympathique, ce désordre, hier soir, Jacques. Merci encore. Vous restez avec nous.
Tout
à l'heure, on a des invités. On a un invité, qui est Philippe, qui est non pas un fan de Jack Kerouac, mais il est fanatique, carrément. Donc, on va voir ça avec lui tout à l'heure.
D'accord.
Et il a écrit des textes aussi magnifiques. On vous demandera peut-être votre avis sur ces textes.
Je suis un fan de Giono.
Ah, ça aussi, non, ça nous fait plaisir.
Je ne dis pas du tout une allégeance. Vraiment, ça a été très, très important dans mes émotions de lecteur.
Tournez-vous, Jacques, vous verrez les toits de Manosque et vous imaginez Angelo entre les toits, sans aucun souci. On fait un petit break et puis on se retrouve après. On va vous remercier, Jean-François et Dominique Blanchecotte. Bon séjour à Manosque, Dominique, et à très bientôt. et bonne correspondance à tous les deux.
Merci.
Retour en 2011, on a réécouté avec grand plaisir ce grand monsieur qui était Jean-François Michel. Olivier Chaudançon, c'est une personne qui aura marqué les correspondances, Jean-François.
Évidemment. Depuis 5-6 ans qu'il était président du festival, il nous avait apporté une sérénité, un plaisir dans le travail. Il nous a accompagnés avec beaucoup de bienveillance, de générosité. Il m'a parfois donné des contacts artistiques, mais c'est plus sa présence d'ensemble et la sérénité qui s'en dégageait qui était tellement précieuse pour nous.
une grande discrétion également, quelque chose de très particulier, et puis quelqu'un de très attentif, on l'a vu dans cet entretien, attentif à ce qui se dit autour de lui, à ce qu'il veut faire passer aussi comme message, une élégance naturelle aussi importante.
C'est ce qu'on appelle la générosité, c'est-à-dire il était à la fois discret pour lui-même et pleinement attentif aux autres. Voilà, c'est ça, hein, une des clés de sa personne.
Olivier, cette édition 2011 lui est dédiée, bien évidemment. Le maire de Manosque, dernièrement, disait que son nom pouvait être accolé à une réalisation, peut-être au niveau de l'hôtel volant, qu'il connaissait fort bien aussi. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je trouve que c'est une bonne idée, parce que c'est vrai que cet hôtel volant, il nous vient directement de lui. Il l'avait acheté il y a déjà un certain temps, avec à l'origine l'idée d'en faire un lieu de résidence musicale, puisque Jean-François était plutôt professionnellement engagé dans la musique. Et puis... nous nous sommes rencontrés, lui et les correspondances, et petit à petit il a révisé le projet en disant mais le plus naturel au fond ce serait d'en faire un lieu de résidence pour les écrivains, et puisque les correspondances aiment mélanger littérature et musique, alors on pourrait faire les deux finalement. Et puis à un moment il avait senti le besoin de passer la main, ne se sentant pas lui-même de porter personnellement le projet, donc il avait voulu que ce lieu revienne à la collectivité publique. Il voulait surtout pas vendre l'hôtel volant à un promoteur qui en découperait pour faire des appartements. Donc voilà, on est là au moment où la ville ou la communauté de communes s'apprête à racheter le lieu pour en faire un équipement culturel public ouvert à tous. Donc c'est vrai que comme tout ça, ça nous est venu de Jean-François, c'est naturel et c'est bien vu de l'associer.
Un bel héritage, entre guillemets.
Oui.
Moi, je verrais bien, j'ai donné mon avis, Olivier, si vous voulez bien. L'hôtel volant, il faut qu'il conserve ce nom d'hôtel volant, parce que c'est un édifice qui est bien connu à Manosque et qui est répertorié en tant que tel. Par contre, je verrais bien l'espace, le patio à l'intérieur, la cour intérieure, porter le nom de Jean-François Michel, parce que c'est là qu'on le voyait souvent, et c'est le cœur des correspondances aussi pendant ce festival, avec des moments, des rencontres importantes. Qu'en pensez-vous ?
Je trouve que c'est une bonne vision des choses, parce qu'en effet les gens connaissent le bâtiment sous le nom d'Hôtel Volant, donc il faut le conserver, puis ça se conservera quoi qu'on veuille, parce que les habitudes sont bien ancrées. Par contre, en effet, dans mon esprit, je me disais, c'est la salle de rencontre à l'intérieur et le patio, ça pourrait
d'accord.
S'appeler la salle Jean-François Michel, et puis on va inventer d'autres choses qui porteront son nom aussi.
Très bien, en tout cas il est présent avec nous et dans nos cœurs, et pendant des années, je l'espère. Une autre personne également qui est régulièrement présent aux correspondants, c'est le comédien Raphaël Franz-Kuhlmann, que vous connaissez bien, qui donne un sacré coup de main à nos amis du comité de lecture qui vont proposer des lectures pendant toutes les correspondances. Et notre ami Raphaël, eh bien, cette année, lit des lettres très très spéciales. C'est des lettres à plumes et à poils. C'est très particulier. Je vous propose d'écouter notre ami Raphaël Franz-Kuhlmann qui explique son rôle au sein des correspondances. Et puis, bien sûr, il nous lira la première de ces lettres, des lettres que vous retrouverez régulièrement, puisque c'est la lettre du renard à la poule. Vous savez que les renards écrivaient, eh bien oui, et est-ce que les poules lisent ? Ça je ne sais pas, mais en tout cas, il lira pendant tous les jours une lettre du renard à la poule. C'est très très drôle, c'est très comique et en même temps c'est assez caustique. Merci encore Olivier, bonne correspondance bien sûr, on vous retrouve tous les jours sur notre antenne pour parler du programme de la journée. Et dans un instant, après Raphaël Franz-Kuhlmann, nous parlerons d'un grand monsieur, Jules Mougin. Mais pour l'instant, Raphaël Franz-Kuhlmann. Raphaël Franz-Kuhlmann, vous êtes comédien et vous participez aux réunions du comité de lecture et bien sûr aux correspondances de Manosque La Poste. Quel est votre rôle dans ce comité de lecture ?
Alors mon rôle, c'est d'accompagner le comité de lecture dans la sélection des extraits des romans qui seront lus pendant le festival. Il y a exactement 8 romans dont on doit tirer des extraits, et mon rôle, c'est de les accompagner, de leur permettre de faire une lecture optimale. En fait, ce sont déjà des très bons lecteurs, étant donné qu'ils sont passionnés, et puis plus les années passent, plus ils sont performants. Mais après, c'est plus pour moi de la sculpture. Je taille par-ci par-là des petits endroits à améliorer pour que la lecture soit vivante. Ma préoccupation, c'est surtout ça, c'est que la lecture soit vivante en fait, et que le langage soit perçu, entendu, mâché, envoyé comme il faut.
Est-ce qu'il y a un profil type des membres du comité de lecture de Manosque ?
Le profil type, non, justement c'est ça qui est bien. C'est que vraiment il y a toutes sortes de personnes. Ça va de gens qui ont plutôt mon âge, dans la trentaine, et puis des gens plus âgés qui auraient plutôt l'âge de mes grands-parents. Et c'est beau, il y a un mélange de génération, de milieu. Peut-être pas extrêmement, c'est pas extrêmement large, mais ce sont des gens qui se connaissent aussi un peu. Mais c'est très intéressant. On partage les avis, les sensibilités, les goûts. Donc c'est très bien, c'est très enrichissant en fait.
Au niveau des goûts justement et de l'inspiration, il y a des auteurs que vous découvrez à ces occasions.
Ouais, tout à fait. Ouais. Moi cette année j'ai été frappé par Lydie Salver avec Hymne par exemple. J'ai aussi beaucoup aimé Du domaine des murmures. De Carole Martinez, Un silence de clairière aussi, j'ai bien aimé. Donc j'adore découvrir des langues, des langages, des univers. C'est passionnant, ouais, j'adore ça.
Alors la lecture publique, c'est un exercice auquel vous êtes régulièrement confronté. C'est un exercice qui est difficile pour les amateurs.
Difficile, je pense pas tellement. Je pense que c'est plus accessible qu'on peut le croire. La lecture, en plus de roman, il y a quelque chose de. À la base, le roman, il y a un roman, c'est une relation intime avec le lecteur. Donc la lecture finalement ne demande pas tant d'efforts que ça. Enfin, c'est-à-dire que ce n'est pas surhumain de pouvoir lire un extrait de roman. C'est juste acquérir un peu de. Il faut savoir palper le temps et se l'approprier et faire passer le texte avec des petites intentions, des petites nuances, mais pas besoin d'en rajouter tellement. Il faut habiter la chose, mais c'est pas du théâtre, c'est pas du cinéma, c'est pas de la musique, c'est pas quoique il y a énormément. Enfin, la notion du rythme est quand même très présente dans la lecture du roman aussi, mais c'est assez fin comme lecture. Du coup. C'est une relation un peu de proximité aussi avec le public, donc il suffit juste de donner un peu de soi et de prendre le temps de le donner. Donc c'est relativement accessible, je pense.
Alors bien sûr, les membres du comité de lecture seront sur la brèche pendant toutes les correspondances, mais vous-même, vous allez présenter des textes et vous allez les lire en public.
Absolument, je vais lire une sélection d'un livre qui s'appelle « Lettres à plumes et à poils » de Philippe Léchermeyer, illustré par Delphine Perret. Et c'est donc une correspondance. Il y en a plusieurs exactement, il y en a cinq dans le livre, cinq correspondances. Ce sont des animaux. La correspondance que j'ai choisie, c'est celle d'un renard, à une poule, une mère poule exactement. Et ce renard-là veut absolument conquérir la fille de cette mère poule, donc il lui demande sa patte, comme il dit. Bon, évidemment, ce n'est pas uniquement pour se marier avec elle qu'il demande la patte de la fille de cette mère poule. Mais voilà, c'est très drôle, c'est très ludique. Moi, je me suis beaucoup régalé à lire ça.
Alors vous le savez, Raphaël, on va passer ces lettres justement du renard à la poule en feuilleton pendant nos émissions des correspondances. Ça se prête tout à fait à ce genre de choses, la radio ?
Ah oui, tout à fait, ouais. Ça s'y prête même très très bien. Moi j'aime bien des fois d'ailleurs, même moi, des fois j'allume la radio, j'entends France Culture, France Inter ou une autre radio, un lecteur qui lit un extrait, et puis c'est un sens qui marche à merveille. Louis, qui accueille ces mots, c'est parfait quoi, d'un coup on est projeté dans un univers, l'imagination quoi, l'imagination, ça laisse beaucoup de place. On est en voiture, on est chez soi, on fait la cuisine, on est dans sa chambre, on est n'importe où, et il y a des mots qui passent, qui nous traversent, et puis on se laisse aller, c'est beau.
Rendez-vous donc tous les jours pour les lectures des lettres à plumes et à poils avec, pour commencer eh bien cette histoire des lettres du renard à la poule. Et on vous retrouve, vous, Raphaël Franskullmann, évidemment, sur la place de l'hôtel d'Herbès tous les jours pendant les correspondances.
Alors j'y serai tous les jours, mais je n'interviens pas. Je serai là avec le comité de lecture qui, lui, lira des extraits de romans comme on en a parlé tout à l'heure. Et sinon, il n'y a que le mercredi, donc. Mercredi 21 septembre, je serai place de l'hôtel d'Herbès pour justement lire la sélection de lettres à plumes et à poils dont on va passer les épisodes. Je serai accompagné par des enfants du conservatoire de musique de Manosque. Je vais faire un petit travail avec l'enseignante qui s'appelle Cécilia Negro. Et voilà, donc il va y avoir un accompagnement musical avec ces lettres.
Première lettre donc.
Première lettre donc. Il s'agit donc du renard à la mère Poule. Madame la Poule, sans doute, votre premier réflexe sera de piétiner cette lettre rageusement ou de la picorer avec hargne afin de la déchirer. Pourtant, je vous en conjure, n'en faites rien. Maîtrisez votre colère et contrôlez vos battements d'ailes. Je ne suis évidemment pas sans savoir que les relations entre les gens de votre espèce et de la mienne ont été depuis des siècles émaillées par de nombreux incidents. Mais je pense que tout cela appartient désormais au passé et qu'il est temps de tourner la page. Que diable ! Soyons modernes et oublions ces disputes lointaines. Faisons la paix, ne soyons pas aussi stupides que nos ancêtres et cessons là ces vaines querelles. Je sais qu'il ne sera pas facile de vous convaincre de la sincérité de mes intentions. Mais si j'ai décidé de m'adresser à vous plutôt qu'à votre mari le coq, c'est parce qu'une mère, et particulièrement une mère poule, est sensible à l'environnement dans lequel grandissent ses petits. Et quoi de plus épanouissant pour un jeune poussin qu'un monde débarrassé de ses dangers? Sans doute hésitez-vous encore à accorder du crédit à la proposition que je vous fais. Vous vous dites que si je vous tends la patte, c'est que j'ai une idée derrière la tête et que j'ai toujours une dent contre vous et vos semblables. Je comprends vos hésitations. Et pour faire disparaître définitivement vos appréhensions, je vous propose de sceller notre réconciliation par une union qui nous rendra inséparables et qui marquera définitivement notre rapprochement. J'ai entreaperçu, à plusieurs reprises, alors que mes pas me menaient tout à fait par hasard à proximité de votre poulailler, votre fille, une délicieuse poulette dodue à souhait que je prendrais volontiers comme épouse. Cela comme preuve de ma bonne foi, ça va de soi. Qu'en dites-vous? Moi, je la trouve à croquer. Et je ne vous cache pas que depuis que je l'ai vue, je n'en dors plus. Avec son plumage moucheté et mon pelage roux, nous formerions un couple charmant. C'est vrai que, sans vouloir vous flatter, quand on connaît sa mère, on comprend aisément pourquoi elle est si appétissante. Non, non, ne rougissez pas, elle tient de vous, indéniablement. Cette crête qui respire la santé, cet œil vif et intelligent, ces cuisses bien dodues, on sent qu'elle a été élevée avec soin et nourrie au bon grain. Alors, madame la poule, qu'en pensez-vous? M'accordez-vous sa patte? Imaginez déjà la grande fête que nous ferons dans mon terrier, avec vous et toute votre famille. Ce serait un festin exceptionnel. Oh, pourvu que mon honnêteté vous saute aux yeux et que vous arriviez à convaincre votre mari le coq. En attendant une réponse que j'espère positive et qui œuvrera au rapprochement entre renards et animaux de basse-cour, veuillez recevoir, madame la poule, l'expression distinguée de votre futur gendre énamouré. Bien à vous, le renard.
Retour en plateau et en direct des correspondances. Donc, je vous rappelle que chaque jour, vous entendrez pendant ces émissions, eh bien, une lettre du renard à la poule. C'est un véritable feuilleton assez particulier, vous l'avez compris, relativement caustique, mais très comique, qui vous est proposé sur nos ondes et avec cette lecture de Raphaël France Kuhlmann. Deuxième partie de l'émission, nous allons entrer en Julésie. Vous allez vite comprendre, surtout si vous avez vu cette superbe exposition qui est à Carzou actuellement. Nous allons parler de Jules Mougin, le facteur étoilé. L'exposition est visible jusqu'au 16 octobre à Manosque. Et avec moi pour en parler, des gens qui l'ont connu et qui l'ont apprécié et aimé, le photographe Claude Venezia, par exemple. Bonjour Claude.
Bonjour.
On va parler avec vous de cette démarche et puis de la manière et de ce que vous gardez de Jules Mougin. Également Pierre Verny, qui est très timide, qui parlera peut-être et qui est aussi photographe. Bonjour Pierre.
Bonjour. Oui, j'ai beaucoup fréquenté pendant un quart de siècle Jules Mougin. Voilà.
on va voir avec vous et puis on peut admirer bien sûr les photos que vous avez faites toutes les deux de Jules Mougin. Et à nos côtés également, même si le calligraphe Mérou n'est pas parmi nous, c'est quand même l'ordonnateur de cette belle exposition. Il s'agit de Claude Billon. Bonjour Claude.
Bonjour.
Vous avez été vous aussi complètement obnubilé par ce personnage exceptionnel qu'est Jules Mougin. En quelques mots, comment on pourrait le présenter ?
Un homme beau, holistiquement beau, c'est-à-dire beau dehors comme dedans. Et quand on pratique un instant cet être, on a envie de l'accompagner jusqu'au bout, par fidélité amoureuse. Et voilà, donc on est tous des collabos amoureux autour de cette table.
Et je suis ravi de vous accueillir, messieurs, ici, pour parler de Jules Mougin. On va rappeler qu'il nous a quittés l'année dernière, à l'âge de 99 ans.
98. Année déjà. Né en 1912, l'année où M. Titanic a décidé de sombrer. Voilà, mais enfin, rassurez-vous, Mougin, sur les flots d'encre très noire, nous remet et nous remettra longtemps encore à flot.
Alors on va entendre bien sûr plusieurs citations de Jules Mougin. On peut dire brièvement que Jules Mougin, c'était un pacifiste forcené, quelqu'un qui adorait, et puis ça tombe bien aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la paix.
Donc, avec la nuance près, il disait « Tout le monde est pacifiste, s'il vous plaît, je suis antimilitariste. » Néanmoins, Jules Mougin, armé de quelque chose, de sa plume, sergent-major, pour fendre la panse de toutes les médiocrités et toutes ces envies de guerre, d'assassiner les gens comme sans doute demain soir aux États-Unis. Et voilà, il a applaudi des deux ventricules du cœur, il a envoyé immédiatement une lettre à Badinter quand ce monsieur a décidé d'abolir la peine de mort.
Quelqu'un également qui porte un regard particulier sur la guerre, puisque c'est une abomination entre hommes qu'on fait entre nous. Dans une armoire comtoise qui est exposée à la Fondation Carzou, il y a quelques pensées de Jules Mougin. Il y en a une qui est terrible, qui est celle-ci que je vous livre. Que d'accouchement pour un champ d'honneur. C'est très simple, très court. Mais ça suffit, on a toute l'absurdité de la guerre, et il a dû d'ailleurs se retrouver avec un certain Jean Giono qu'on connaît bien ici à Manosque, Claude.
Et la rencontre a eu lieu en septembre 38, voilà, ça a été fondateur dans son écriture et sa manière de vivre, bien sûr.
Jean Giono qui avait vécu la guerre de 14-18 et qui était lui aussi pacifiste. Et puis... qu'est-ce qu'on voit dans cette exposition ? Bien sûr, quelques phrases qui nous titillent l'intelligence, heureusement, la sensibilité aussi. Et puis, on voit également tout un travail de plasticien, carrément, avec des poupées qui sont fabriquées par l'amour de sa vie, par Jeanne, sa Jeanne.
Jules disait, il a beaucoup écrit, bien sûr, c'est un acte épistolaire tout au long de sa vie. Mais il écrit un jour, il le dit et il le redit, je crois que je vais encore plus loin avec le dessin. Alors on a mis l'accent dans cette exposition que vous annoncez à Carzou sur le dessin. Ce n'est pas un dessin pantouflard, le dessin de Jules. Voilà. C'est ce qui est montré à Manosque n'engage que la poésie.
Et c'est une belle poésie avec donc ses dessins, je le disais à l'instant, l'amour de sa vie c'est sa femme, Jeanne, quand Jules dessinait un bonhomme avec des proportions assez particulières, eh bien Jeanne prenait ses tissus et son aiguille et hop, elle arrivait à fabriquer, à donner vie, à donner corps à ses dessins. C'est ce qu'on retrouve dans l'exposition, Claude.
Entre autres, voilà, on aura ménagé la surprise des enfants. Nous aurons 8 classes jeudi et vendredi. Et ils vont se régaler les yeux avec les poupées réalisées, effectivement, à partir d'un dessin de Jules, création en 3D, Jeanne Mougin. Voilà, c'était la compagne de tous les instants. Et quand Jules avait des moments comme ça, par bouffée créative, ben dans les années 73, 74, 75, ben il s'est occupé des poupées. Il a réalisé avec de front, autour de la même table avec Jeanne, et on voit une petite partie de cela, leur réalisation commune.
Est-ce qu'on peut dire de Jules Mougin que c'était carrément... un doux dingue, épris, oui, de poésie, épris, oui, de paix, de choses comme ça, Claude Venezia?
Non, certainement pas. Non, non, Gilles Mougin n'était pas un doux dingue. C'est un homme de raison. C'est un homme de lettres. Mais un homme de lettres, pas au sens de ce qu'on dit habituellement des écrivains. C'est un homme de lettres. C'était un homme de correspondance. Un homme de correspondance et de correspondance du cœur. Correspondance du cœur. C'était un homme de lettres au sens lettres comme existence. C'était un homme de l'instant, du présent.
Et sa plume, si vous pouviez voir l'image que j'ai envie de formuler maintenant, c'est un stylet, la plume, sergent-major, ce bout de bois que prolonge un bout de fer, un sismographe appliqué de ce qui ressent au plus profond. Et les poussées, les colères, eh bien tout ça, c'est l'estrace. Il y a une écriture naturelle, il y a un dessin naturel. Et me vient la phrase de Robert Morel, qui a été son éditeur extraordinaire, 3 livres glorieux, 1960, 61, 62, 143 poèmes, lettres et cartes postales, La grande alourde depuis Mal de cœur. Morel disait: vous commencez par nous faire chier avec la communication. On ne vous a pas attendu. Signé Les Oiseaux. Et Gilles Mougin, formidable, drôle d'oiseau.
On retrouve l'esprit de Robert Morel, qui a été le premier éditeur, me semble-t-il, à décentraliser l'édition et faire une maison d'édition dans ce qu'on appelle à Paris, avec beaucoup de condescendance, la province. Et il s'est installé en Haute-Provence et il a laissé une trace très importante de son travail en Haute-Provence. Claude Venezia, qu'est-ce que vous gardez, vous, du message et du personnage Jules Mougin?
Alors moi, j'ai connu Jules Mougin en 78 et jusqu'à sa mort, je dois dire, enfin je ne l'ai pas vu beaucoup les dernières années, mais disons que jusque dans les années 2000, nous avons eu des relations extrêmement proches, dans la mesure où il venait souvent en Provence et où moi-même je montais souvent à Chemelier, et à chaque fois Nous faisions des promenades. Il avait une île. Alors quand je dis île, c'est île au pluriel, parce qu'on ne peut pas parler de Jules sans englober immédiatement Jeanne. Jules, quand on dit Jules, c'est Jules et Jeanne. Je crois que vous le verrez dans deux ou trois des photographies que je présente à la Fondation Carzou. On voit leur complicité quand ils lisent une lettre, leur complicité de tous les instants. On l'a vu aussi dans ce film qui a été présenté au Revest, quand Jeanne, qui ne dit pas souvent grand-chose, mais tout d'un coup, elle est tellement présente et elle dit « Non, Jules, non, non, c'est pas comme ça. » Dans son beau langage angevin. Voilà, donc je voulais dire ça à propos de Jeanne. J'ai perdu le fil, sinon...
Vous avez fait beaucoup de photos, vous, Claude, de Jules Mougin, et dans plusieurs circonstances différentes.
Voilà, beaucoup de photos, beaucoup de rencontres. Il avait un appétit, une curiosité absolument énorme. Énorme. Et cet appétit était communicatif. Comme quand on est avec un bon mangeur et un bon buveur, avec de la bonne cuisine, on a envie de manger.
Et quelqu'un a dit, la poésie doit être contagieuse. Ben, je vous prie croire qu'on était tous imbibés de cette contagion-là. C'est un pratiquant Jules.
C'est un beau virus.
Claude, il faut citer les deux autres photographes, les contributeurs de l'exposition, Pierre Verny, ici présent, et Joseph Trzeciniewski. C'est un photographe enlumineur et qui a rencontré Jules en sa demeure avant que la famille décide et lui demande d'accepter de continuer les derniers mois de sa vie en maison de retraite dans le sud, tout proche de la famille, pour encore mieux s'en occuper.
C'est vrai, c'est vrai.
Donc Joseph, Pierre Verny et Claude Venezia font à peu près un parcours de 50 années de photographie, de visage. Lorsque j'ouvre les yeux, je vois le paysage, mais dès qu'ils sont fermés, plus rien que ton visage. Voilà.
Et ces trois-là célèbrent le visage de Jules, qui est magnifique, aussi beau que votre Provence, bien sûr.
Et c'est un visage qui nous interpelle aussi. Il y a aussi d'autres visages qu'on voit sur vos photos, Claude Venezia, ce sont des personnages qu'on a connus et appréciés dans notre département. Je pense bien sûr à Lucien Henry, à Fort-Calquier. Je pense aussi à Philippe Cottenceau, par exemple.
Absolument, oui. Philippe Cottenceau était une sorte de... c'était leur petit chouchou, quoi. Philippe Cottenceau, quand il parlait de Philippe, c'était toujours avec une émotion. Et Philippe, si fragile, si...
Jules et Jeanne l'appelaient l'ange.
Et l'ange.
Il repose à côté, au même endroit, cimetière de Fort-Calquier, aux côtés de Lucien Henry.
Oui. C'est vrai que Philippe Cottenceau était un personnage extrêmement fragile et d'une délicatesse et d'une sensibilité extraordinaire. Et il est devenu un immense artiste en cerf-volant, où ses cerfs-volants devenaient de plus en plus légers, de plus en plus... c'était des poèmes pour le ciel. Et Jules l'a très bien senti. Et il y a une des photos que j'ai faites qui avait servi qui avait servi d'affiche à l'exposition Poésie et Photographie. Elle figure dans l'exposition chez Carzou. C'est une photo de Jules et de Philippe de dos, où ils sont en train de regarder un cerf-volant, ce petit cerf-volant que Philippe avait offert à Colombe, ma femme, et qu'on appelait le petit spermatozoïde. Ils sont en train de le regarder tous les deux.
C'est une très belle photo, magnifique effectivement, avec cette signature particulière qui ornait la tête de Jules Mougin, autrement dit son magnifique béret.
Son magnifique béret.
Donc on reconnaît bien là aussi la silhouette de Jules Mougin.
Un béret basalpin, s'il vous plaît.
Oui, tout
avec la petite étoile du Che Guevara, parce qu'il avait quelques affinités, Jules, il ne faut pas l'oublier.
Alors, Che Guevara, Lucien Henry, ce sont deux des noms que l'on retrouve sur un monument particulier qui s'appelle le mur vivant des assassinés. C'est vous, Claude Billon, qui avez donné ce nom à ce monument. Dites-nous en plus sur cet outil particulier de révolte.
Il y a gravé, Jules, le nom de tous ceux qui ont perdu leur vie au nom de la liberté. Karl Liebknecht, Zacco Vanzetti. Si Jules vivait encore, peut-être demain matin, malheureusement, mettrait-il celui qu'on va assassiner aux États-Unis. Que vienne le temps dont on s'éprenne. Il y a aussi cette phrase d'Arthur Rimbaud. Il dit de ce mur, il me survivra. J'ai laissé une trace, c'est très important d'y aller voir encore. La famille Mougin a la grande chance d'avoir vendu le domaine, les caves, les grottes, les caves troglodytes. Il est anthologiste de la poésie troglodyte, pourrait-on dire, Jules. Et c'est un jeune couple magnifique, mais qui a demandé à la vie d'avoir deux enfants, comme si c'était la réincarnation de Jules et Jeanne, en quelque sorte. Et ces caves, tous les dimanches, c'est possiblement possible de les visiter aujourd'hui.
C'est à quel endroit
À Chemelier, lieu-dit Lamotte, dans le Maine-et-Loire, 30 km au sud d'Angers.
Donc si le cœur vous en dit, vous pouvez visiter ce monument qui est assez, assez exceptionnel et en même temps très émouvant. On y retrouve, vous l'avez dit, des noms comme Zacco et Vanzetti, on retrouve Louise Michel, on retrouve Che Guevara, Gandhi et puis Lucien Henry, qu'on connaît fort bien ici et qui a laissé beaucoup de traces, notamment dans la région de Fort-Calquier.
Je te coupe, tu parlais des murs, mais tout. M-U-R, le mot mur. Il dit d'un mur. Quand Jules pratiquait son métier de facteur durant près de 20 ans à Revesse-des-Brousses, au-dessus de son guichet, il avait la vue périscopique, il y avait en face un mur, lézardé, souffrant, plein de signes. Et il dit « Ce mur, c'est mon maître à penser à moi. C'est lui qui m'a appris à dessiner. » J'ai tellement regardé le mur de la grange du père Monnier, jadis à Revesse-des-Brousses. Un mur avec tout plein de rides, de signes et de grimaces.
Un jour, les maçons ont taloché gueules et figures. On devrait interdire les ravalements, rendre lisible le grouillement. Je crois qu'en synergie, en construisant cette exposition derrière son fils Jean Mougin, on essaye un petit peu de rendre lisible le grouillement.
Et d'interdire le ravalement également. Donc allez fouiller si vous allez voir cette exposition à l'intérieur de cette horloge comtoise et qui, où Jules a écrit pas mal de ses pensées et qu'il les collait, je suppose, au jour le jour, comme ça venait.
Et pas pour tout le monde, dans l'intimité de l'horloge. Et le dimanche, il arrêtait le balancier et il laissait reposer le temps. Il lui donnait son dimanche. Et c'était le moment qu'il préférait pour lui et quand il avait un intime... à ses côtés, et ben de publier à voix haute ce qu'on pouvait y lire.
Et ce dimanche, chers amis, vous avez fait un acte très julésien, j'allais dire. Vous avez célébré Jules Mougin dans son territoire. C'était à Revesse-des-Brousses. Vous pouvez nous en parler, Claude ?
Ça, c'était absolument voulu depuis de longues années par Jean, Monique et Jean-Philippe, Anouchka. J'ai cité là toute la famille Mougin. Et enfin, voilà, ce n'était pas une commémoration, c'était une célébration. Jules a été nommé à Digne en 1939, nommé receveur sur sa demande, receveur-distributeur à Revesse-des-Brousses en 1941, et près de 20 ans, il pratiquera son métier, voilà. Et il y a une petite anecdote à dire, c'est que dans la vallée, au pied de Revesse-des-Brousses, il y a une petite rivière qui s'appelle le Largue. Et Jules n'était vraiment pas un facteur comme les autres. Le képi restait à la maison, au bureau, mais il y mettait le grand carré, le mouchoir avec 4 nœuds. Il allait sous le soleil, de son pas de facteur. Et pour profiter un peu de fraîcheur, il demandait pardon dans le lit de la rivière aux couleuvres. « Écoutez, vous avez eu votre plaisir, maintenant c'est mon tour, s'il vous plaît. » Il dérangeait les couleuvres et il mettait dans les trous d'eau ses pieds de facteur, et je vous prie de croire que les pieds du facteur, tous ces trous d'eau, ils les ont tous connus.
Une belle histoire, et en même temps c'est un temps qui est peut-être révolu, où effectivement les facteurs avaient le temps de vivre. Le temps d'ailleurs, c'est un des suppliciés que l'on voit sur le mur vivant des assassinés, figurez-vous. Le temps. On avait le temps de faire les choses dans le passé, au temps de Jules Mougin. C'était une bonne chose. Il avait un rapport aussi très particulier avec un objet essentiel du costume de l'occidental, la cravate.
En 1987, en exposant Jules Mougin la première fois en Lorraine, on a mis sur l'affiche une gueule de Jules et en dessous, anthologiste de la poésie troglodyte, coupe-cravate, voilà. Et pour inaugurer l'exposition, eh bien, on n'a pas fait copie conforme, on n'a surtout pas demandé à monsieur le sénateur de maire de nous donner un bandeau tricolore avec un grand ciseau. Pierre Verny nous a confié un grand ciseau de maître tailleur sur un velours rouge, avec la complicité, bien sûr, quelques instants avant le moment. On a demandé la complicité du sénateur-maire. Jules Mougin a pris soin de lui couper la cravate en déclarant ouverte l'exposition.
Je dois ajouter aussi une phrase, une pensée qui est exposée à la Fondation Carzouk, je vais vous dire de mémoire, avec un très beau dessin d'une cravate, bien sûr. Il est dit « Les dieux, les anges, les hommes libres ne se ridiculisent pas avec
la
une cravate. »
C'est daté de 1981, c'est une des lettres que j'ai reçues.
Une très belle phrase, et puis on sent aussi l'esprit magnifique de Jules Mougin.
Pour revenir à l'exposition, il y a un choix. On a préféré présenter beaucoup de dessins datés justement de Revesse-des-Brousses, datés de cette période-là. Il l'utilisera, le facteur Mougin, mais ne le répétez pas, il se servira beaucoup du papier de l'administration pour ses graphies. Le verso d'un paplard, c'est son côté frais de l'oreiller à lui. Vous n'allez pas croire que le facteur distributeur se la coule douce derrière son guichet. On pourrait se dire, en voyant tous ces dessins, que le métier de facteur donne du temps pour le délire et le désir d'écrire. C'est surtout que Jules, dans son bureau, n'aime pas beaucoup les chiffres. Et que la comptabilité pour lui, la compta,
qu'il passe tous les soirs à Jeanne. Occupe-toi de cela. La comptabilité aux yeux de Jules, c'est du temps volé à la poésie. La fatigue et l'amertume, deux poids qui nuisent à la création. Je dis ça très calmement, c'est la vérité, m'écrit Jules.
Donc la pensée de Jules Mougin, et Jules Mougin qui vous a écrit vous-même, Claude Billon, et qui ne pourrait plus, on ne pourrait plus écrire de cette manière. Il vous a écrit par exemple sur des cuillères en bois avec un joli timbre, avec un texte marqué sur l'endroit, l'envers, enfin bref.
Je ne sais pas, je crois que même l'administration qui est de plus en plus robotisée, trop robot pour être vrai, dirait Jacques Prévert, eh bien on aime bien voir passer ce type de courrier tout de même. C'est un défi lancé et quelques postiers relèvent ce défi. Ça parvient encore au destinataire. Alors allez-y, envoyez une spatule, une cuillère en bois, mettez-y quelque chose à la manière de Jules et surtout un timbre et soigneusement l'adresse d'un ami et laissez partir. Et ça partira. Il ne faut pas qu'on soit des postiers ou il faut qu'on soit à nouveau des postiers et non pas des postiférés. Vous voyez ce que je veux dire?
À la condition qu'il y ait des postiers et qu'il n'y ait pas des machines qui s'occupent effectivement du tri du courrier, où là, les cuillères en bois risquent de souffrir beaucoup plus que les lettres. L'exposition est visible jusqu'au 16 octobre à Manosque. L'entrée est entièrement libre. Le facteur étoilé. Tous les deux, je vais vous demander de conclure avec évidemment des émotions personnelles.
Et justifier le titre, pourquoi le facteur étoilé? Parce qu'on a tous ressenti qu'il est celui qui a posé une étoile sur le « i » du verbe « aimer ». La poésie n'est la propriété d'aucun propriétaire. La poésie n'est la propriété d'aucun propriétaire. Les agences de cotation sauront jamais évaluer cette vraie richesse, les vraies richesses de Giono, la vraie richesse de l'œuvre de Jules. Le type, le triple A Mougin, c'est amour, amitié et art de vivre. Soyons contaminés, s'il vous plaît, par cela. Au moins jusqu'au 16 octobre.
Un deuxième virus qu'on va prendre. Claude Venezia.
Moi, j'aimerais dire un mot sur la manière d'écrire de Jules, sur ces mots, sur ce langage brut, ce langage lapidaire, précis, ce langage qui contient du réel à un point incroyable. C'est un homme de lettres, vous allez voir. Une carte postale de Jules. Zanzibar est quelque part. Jean Giono est à Manosque. Jean Cocteau est dans la lune. La liberté est portée disparue.
J'aurais bien aimé recevoir une telle carte postale. Merci beaucoup, messieurs. Oui, Claude, un dernier mot.
On termine par toujours la verbe de Jules. Aux habitants de Manosque, quittez les fromages de Bannon, les vins de Saumur, le poulet de Loué, l'huile de noix, l'huile d'olive, quittez les petits déjeuners, l'omelette aux truffes, les premiers petits pois, quittez l'arrivée des hirondelles, les morilles, quittez sa maîtresse, le feu de bois, la bière du père Machin pour la guerre. Faut vraiment être con. Et Jules met en dessous à suivre.
Et la suite, c'est à la Fondation Carzou. Merci encore à tous les deux. Merci aussi Pierre Verny d'avoir été parmi nous. Une exposition à voir et évidemment jusqu'au 16 octobre. C'est la fin de cette émission. Merci Emeline pour la régie. On se retrouve demain donc pour une deuxième émission au cœur des correspondances. À bientôt.
Merci François, à bientôt.